Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
Beta Série, partenaire média de Sériemania 2022.
Bonjour, bienvenue sur Beta Série La Radio pour une nouvelle émission Originals en direct du festival Sériemania 2022 dont Beta Série est partenaire. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Ousekin, la série projetée en clôture du festival, une série originale Disney+, très attendue. J'ai le plaisir d'interviewer Antoine Chevrolier, son créateur, co-scénariste et réalisateur, et ses co-scénaristes Faïza Guen, Cédric Ido et Julien Lilti. Bonjour à vous tous et toutes.
Bonjour.
Alors, Ousekin se penche sur les terribles événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Ousekin, auquel finalement ces événements, jamais aucune série n'a été consacrée. Alors Antoine, peut-être pourriez-vous nous pitcher la série en quelques mots.
Bonjour à tous. Ousekin raconte à travers un prisme familial la tragédie de la mort de Malik Ousekin en 1986. Par un truchement narratif, on raconte différentes étapes donc de cette famille, c'est-à-dire à travers des flashbacks et une ligne plus omnisciente, on raconte un tout petit peu ce qui s'est passé au sein de cette famille entre la mort de Malik jusqu'au combat judiciaire qui les mènera jusqu'en janvier 90. Et puis donc on a ces flashbacks qui racontent un tout petit peu qui était cette famille Ousekin. Et dans un troisième temps, on a les dernières heures de la vie de Malik qui traverse donc les quatre épisodes pour raconter finalement très concrètement ce qui s'est passé dans ce hall la nuit du 5 au 6 décembre 1986.
Alors moi je sors de mes premiers épisodes, c'est dramatique, je suis complètement bouleversé, hein, c'est vraiment exceptionnel comme tension dramatique, comme thème, vraiment c'est une série extraordinaire. Comment vous est venue l'idée de la créer, cette série? Et d'ailleurs, est-ce que c'était une série, il y a 4 fois 52 épisodes, c'est 52 minutes, c'est limite un grand film. Est-ce qu'il y avait eu un choix de format à la base?
Alors, comment est venue cette série? Elle est là, enfin en tout cas elle est en moi depuis plusieurs années. Au début j'ai pensé plutôt à un format film, et puis ayant travaillé sur des séries, je me suis très vite rendu compte que le format sériel nous permettait d'être plus dense et de raconter plus en profondeur les choses. Deuxième question.
Non, c'était ça. Okay. C'est parfait. Effectivement, 4 fois 52 épisodes, on est tout de suite plongé dans les histoires et les différents flashbacks. Au-delà de l'histoire, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités. La vérité, l'immigration algérienne, la police et la population, la politique, ces événements historiques peu racontés. Peut-être une question pour Faïza qui avait beaucoup écrit sur l'immigration, sur l'intégration. Est-ce que c'est des thèmes qui sont les thèmes centraux, ou est-ce que finalement il y a beaucoup de thèmes et chacun sont abordés au fur et à mesure des épisodes et des personnages?
En fait, je dirais pas que ce sont les thèmes centraux de la série, parce que c'est une série qui est très universelle, puisque en réalité la série elle raconte la perte d'un enfant, d'un frère, la vie avortée d'un jeune homme de 22 ans, et ça raconte le deuil, ça raconte le combat pour la justice. Donc ça, c'est des thèmes qui sont très universels, mais en fait on avait envie aussi de les traiter à travers donc le prisme intime et de cette famille qui a cette histoire de l'immigration algérienne, qui a aussi traversé un moment historique en France. Donc on avait envie de raconter ce chagrin et ce deuil, cette perte, à travers aussi cet épisode historique. Voilà.
Ouais, effectivement, c'est très universel. Encore une fois, je la trouve bouleversante et donc je suis très touché moi-même. Cette série est très générationnelle, parce que justement, moi-même, j'étais étudiant en décembre 86 et je me rappelle très bien de ces manifestations. Est-ce qu'elle résonne avec notre époque? Est-ce qu'il y a un travail aussi qui fait qu'on se sent concerné aussi aujourd'hui dans cette série? Question pour Cédric.
Oui, je pense qu'elle résonne totalement et que ça résonne aussi avec le fait qu'on ait eu envie que ce soit totalement universel, parce que des bavures policières, il y en a encore, et que le Malik Ousekin, ça résonnait chez Antoine comme chez moi, comme chez tout le monde, comme étant quelque chose d'assez lointain. Moi, à l'époque, j'avais 6 ans. Et en grandissant, j'entendais le nom de Malik qui résonnait, et que jusqu'à aujourd'hui, proche des proches ou des choses comme ça, moi j'ai grandi en cité, j'entendais, j'étais plus ou moins témoin de loin de bavures et de choses comme ça, et puis ça, et le but c'est de comment dire ça,
l'idée, c'est il y a quelque chose de l'ordre de la blessure transgénérationnelle. Et en fait, les mots qui n'ont pas été pensés à cette époque-là, à travers la mort de Malik Houssekine, se répercutent très fortement aujourd'hui. Il y a un virage qui a été mal négocié, indéniablement, dans les années 80. Et la mort de Malik incarne fortement ce rattache politique. Aujourd'hui, on se retrouve finalement à essayer de... On a un peu les pots cassés de ce qui s'est passé lors de cette décennie, on va dire, sous Mitterrand, quoi.
Vous êtes, Antoine, un habitué des séries très réalistes comme Baron Noir, Le Bureau des Légendes, en immersion dans les institutions aussi. Comment vous avez travaillé pour coller à la réalité, mais en racontant aussi une histoire? Est-ce qu'il y a eu un énorme travail documentaire, un travail aussi avec la famille? Qu'est-ce qui a été fictionné, en fait?
Alors, il y a eu un gros travail documentaire, c'est-à-dire qu'avec donc Faïsa, Julien et Cédric, on s'est évertué à, tout simplement d'un point de vue moral, à se rapprocher au plus près de ce qu'avait ressenti la famille. Et donc, moi, j'ai passé plusieurs dimanches, pendant plusieurs mois, avec Ben Amar Houssekine et Mohamed Houssekine à faire des entretiens où ils m'ont un petit peu raconté donc l'histoire effectivement de la famille, mais aussi des choses plus presque subjectives, c'est-à-dire des ressentis à l'instant de la mort de Malik ou des choses, voilà, ils nous ont donné quelques clés, ils ont été effectivement très généreux. Donc, et puis d'un autre côté, tout ce qui est factuel, c'est-à-dire tout ce qui est autour du judiciaire, du policier, effectivement, on a été au bout d'une forme de recherche avec l'accès au dossier d'instruction, ce genre de choses. Donc, ça a été une débat, c'est ce qu'on répétait souvent en room tous les quatre. On se disait, en fait, il faut qu'on ne torde pas la réalité, la vérité. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que, en fait, cette réalité nous donnait accès à des moments de fiction, très naturellement.
Effectivement, on a une série dans le réel, mais c'est aussi des histoires de personnages qu'on suit. Une question pour Julien, il y a différents arcs narratifs, hein, donc dans cette série, le procès au temps présent, un peu plus tard dans les épisodes, tout à fait initialement les dernières heures de Malik, beaucoup de flashbacks sur sa famille. Donc entre tous ces allers-retours et différents personnages qu'on suit, comment la série a été écrite au sein de l'équipe? Est-ce que vous avez travaillé, vous êtes réparti le travail, ou alors c'était plus organique? Comment s'est passé en fait l'écriture de la série?
Alors, on a écrit cette série vraiment à quatre, de façon très collégiale. Il y a eu différentes phases dans l'écriture. La première phase, ça a été vraiment une phase d'imprégnation du sujet, avec beaucoup de documentation, comme le disait Antoine, à différentes sources. On s'est autant abreuvé auprès de la famille que des journaux de l'époque, que un petit peu du travail d'histoire contemporaine, qui est vraiment la partie congrue de notre source, mais qui existe malgré tout. Et puis évidemment le dossier judiciaire aussi, auquel on a eu partiellement accès. Et ça, c'est un long travail qui nous a permis aussi de mieux nous connaître et de parler entre nous avant même de poser le premier mot de la série qui serait celle qu'on avait envie d'écrire parce qu'on se rencontrait. Donc je pense qu'on s'est tous influencés, mais positivement. Et c'est en ce sens-là une très belle expérience d'écriture. Ensuite, on a décidé assez vite, même si on est dans un récit très réaliste, de chercher une forme d'ingéniosité narrative en mélangeant les lignes temporelles, parce que ça, nous, pas par coquetterie, mais parce que ça nous semblait le meilleur moyen de faire monter effectivement les enjeux pour que l'issue de la série permettre de véhiculer tous les messages qu'on voulait y mettre, tant sur le plan du drame intime que de l'affaire d'État, on peut dire, mais aussi ce virage mal négocié collectivement, comment on n'a pas su faire société autour de ce drame. Et donc cette ingéniosité narrative, je pense malgré tout que c'est aussi un plaisir pour le spectateur, j'espère en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Parce qu'on aime la fiction, on aime le récit et on avait envie d'offrir ça aussi aux spectateurs, évidemment dans le respect de cette histoire qu'on raconte. Et c'est évidemment avant tout ça notre mission, et je pense qu'on avait tous ça à cœur, d'être des messagers, des relais de cette histoire vraie.
Oui, on suit dès le démarrage, on est en totale immersion, on a des personnages, enfin on suit Malik dans son quotidien et très vite on est très attaché par tous, par sa sœur, par sa famille, et donc on est pris nous-mêmes en fait dans l'événement comme lui il est pris par surprise ce jour-là dramatique. Alors justement en termes de casting, est-ce que vous aviez en tête, il y a un mélange d'acteurs qu'on connaît déjà dans les séries comme Thierry Godard dans Grenage ou Kadmerad dans Baron Noir ou Ayam Abbas dans Succession, dans des grands personnages de série déjà, mais on a aussi des plus jeunes, des moins connus, avec des performances exceptionnelles. Comment s'est passé le casting à la fin, pendant, au début, dans la conception du projet ?
Dès le début, j'avais quelque chose de très clair. C'était très clair pour moi, la maman, Aïcha, c'était Ayam Abbas. C'était très clair aussi que le papa, Miloud, c'était Slimane Dazi. Mmh. Et c'était très clair aussi que Kiejman allait être incarné par Kadmerad. Et puis ensuite, le process du casting s'est fait assez classiquement. J'avais très envie de travailler avec Naïdra Ayadi, puisqu'on s'était croisés, puis on s'était un peu raté sur une précédente série. Donc j'avais très envie de travailler avec elle, et elle incarne donc Fatna. Et après, pour le reste du casting, ça s'est fait encore une fois assez classiquement avec Gigi Akoka. Long process de casting. Pour Malik, on a eu 520 propositions. Pour Ben Hamar, quasiment 200. Donc ça a été un très long process qu'on a commencé quasiment 6 mois avant le début du tournage. Et puis voilà, avec des callbacks plus ou moins longs selon les rôles, mais un process de casting somme toute assez classique, à part pour ces trois rôles dont je parlais.
En tout cas, bravo, hein, super, super casting. Notre interview va arriver bientôt à sa fin. En termes d'influence artistique, série, film, voire livre, qu'est-ce qui vous a, vous-même, aidé beaucoup dans l'écriture de la série ? Je demandais à chacun les quelques influences que vous avez pu avoir.
Chacune. Merci. Au niveau des influences, je pense que, pour rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, sur toute la période d'imprégnation, on a été... dans un moment, on a beaucoup regardé même de clips, on a écouté de la musique, on a regardé même des spots publicitaires de l'époque pour se rappeler un peu de se rappeler ou en tout cas découvrir parfois certaines influences des années 80. Parfois, on a été surpris même de voir certaines choses parce que le temps passe vite, mais parfois il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Donc en termes de musique, je sais pas, je parle de Rachida parce que j'y pense là, mais moi j'ai beaucoup réécouté, on a réécouté les musiques de Rachida par exemple, on a redécouvert des clips de Quart de Séjour, etc. Donc ça nous a permis de vraiment de rentrer en imprégnation sur la culture de l'époque.
Julien ?
Oui, c'est difficile de démêler les influences. Moi déjà, je réponds à côté, pardon. Mais volontairement. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture, c'est les univers de mes co-auteurs, qui ont tous un univers fort et un point de vue fort sur cette époque, notamment. Et puis, il y a aussi le travail que menait en parallèle Antoine à partir assez tôt dans l'écriture, travail de direction artistique, avec Colombe Rabhi, qui a fait un travail extraordinaire sur les décors, notamment. Et nous, on a été aussi nourris de ces images, on avait au mur de la salle d'écriture des documents iconographiques qui étaient pour nous des références, mais ça pouvait être même le modèle d'une voiture, une manière de s'habiller. Tout ça nous a petit à petit plongé dans l'univers à venir, l'univers pictural, je dirais, à venir de la série, et qui plus est quand on a découvert sur le tournage les décors avec les acteurs en costume, ou évidemment la série terminée, on n'a pas été trahi par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc là, en termes d'auteur, de scénariste, c'est un grand cadeau. Donc voilà, moi je dirais que c'est aussi beaucoup ça. Sinon, sur le plan cinématographique, y a évidemment le travail de la série américaine réaliste. Bon, je vais pas citer parce que c'est des Arlésiennes et enfin même des marronniers, mais évidemment le travail de David.
Il y a We Own the City qui est au festival d'ailleurs. Hein,
vous avez vu de quoi je parlais. Mais aussi, moi je pensais souvent par exemple à Une Séparation, qui est un film qui justement essaye de déplier les points de vue de chacun. Mais ça pourrait être aussi La Règle du Jeu de Renoir, ou tous ces films qui essayent de faire une photo d'un moment donné d'une société où les lignes de tension sont pas tout de suite visibles et où apparaît comme ça autour d'un fait divers Voilà les lignes de démarcation très fortes entre les différents composants de cette société. Donc voilà, ce genre de film ou ce genre de série m'ont... là et d'ailleurs en général sont m'influencent beaucoup.
Cédric ?
Ouais, moi les premières fois où Antoine m'a parlé de son idée justement d'Ousekin, je pense qu'il y a une série qui nous est venue plus ou moins en tête tous les deux, c'est d'un point de vue émotionnel vraiment, c'était When They See Us. Parce que justement, ça traitait d'une injustice et que on avait été vraiment, vraiment bouleversé par cette série-là et qui se passait aussi environ à la même période dans les années 80 aux États-Unis. Mais bien sûr, encore une fois, c'était aux États-Unis et qu'il fallait nous, d'un point de vue émotionnel, le ramener de notre côté. Voilà, il y a eu des influences comme ça et puis on s'est dirigé voilà plus ou moins sur des choses préexistantes et puis aussi le format d'avoir quelque chose de très tenu. En 4 épisodes justement, et l'idée, je sais pas, c'est, je mentirais pas en disant que dans la tête d'Antoine c'était 4 épisodes et que c'était un long film aussi et que fallait traiter les personnages, voilà, de ramener vraiment de l'émotion. Et When They See Us a été, c'est ce qui m'est venu en tête avec plein d'autres choses hein, forcément. Mais c'est ce qui me...
On parle beaucoup du réalisme et du traitement très documenté en fait de la série, mais il y a beaucoup. Tu l'as cité, enfin beaucoup beaucoup d'émotions, d'empathie. Ça, c'est un gros travail très très cinéphile aussi. On est tout de suite plongé dans une patine, une photographie, une époque sur effectivement les décors. La R5, moi je la connais très bien. La R5 dans le premier épisode, j'avais même la même couleur, je crois. Donc voilà, exactement champagne. Antoine, au niveau influence, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, étant donné que c'est très riche comme série.
Oui, il y en a évidemment beaucoup. À l'endroit de la note picturale, dès le début, je savais que je voulais quelque chose qui s'approchait plutôt du cinéma de Sidney Lumet, donc période 75 fin 80. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, d'un peu crasseux quand ça doit l'être, et puis très droit, très chiadé à d'autres quoi. Donc j'avais en tête les films de Sidney Lumet. À l'endroit de l'écriture, pour être tout à fait honnête, la lecture de La Discrétion du livre de Feyzaghen en fait m'a conforté à l'endroit de la grammaire que j'avais pensé. Et voilà. Et puis une dernière chose. Ça serait le hip-hop français des années 90. Voilà, de Assassin, NTM.
Qui résonne avec le monde de demain également, en compétition.
Ça fait avec le monde de demain. Voilà.
Super. Ben, une petite dernière question qui n'est pas corrélée à Ousekin, parce que je pense que on est aussi intéressés tous par ce que vous regardez à côté, une petite série qui vous plaît en ce moment particulièrement, pas forcément d'hier, mais de cette année, ou une série en général que vous aimez en particulier. À part Ousekin, bien évidemment.
J'ai pris pas mal de plaisir inattendu pour moi sur une série Amazon ces dernières semaines qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel.
Ah bah oui.
Voilà.
C'est pétillant.
Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est très divers, enfin c'est très très bien écrit, surtout les deux premières saisons. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette série.
Faiza également, c'est ça.
Ouais, je l'ai vu aussi, c'est très bien.
Ouais, c'est une super série. C'est plus gay, mais c'est également un travail à la fois réaliste et un personnage extraordinaire et un combat exceptionnel. Ouais.
En fait, moi, il y a pas mal de séries que je commence. La dernière que j'ai apprécié plus ou moins pour la folie et tout ce qui se permettait, c'était Squid Game. Mais il y a une chose assez particulière chez moi, c'est que plus j'essaye de regarder des nouvelles séries, plus je reviens justement, bon, ça va être un peu un cliché, mais je reviens au Soprano souvent, ou au Soprano ou à The Wire, vraiment en me disant, certaines nouvelles séries me donnent envie de retourner à ces bases-là et je suis jamais déçu, quoi. Voilà. Et c'est vraiment, on veut dire, c'est ces deux-là.
Ouais, voilà. Atemporel, quoi.
Quand je regardais encore un épisode de Soprano, voilà, et je le regarde de manière décousue parce que je les connais tellement bien que ça reste. Et puis c'est un peu, j'aime retrouver ces personnages-là, MacGyver aussi, voilà. Et c'est marrant parce que c'est des personnages qu'on aime retrouver. Et j'ai la sensation aussi que dans Ousekin, sans nous jeter des fleurs aussi, mais j'ai la sensation qu'on a envie de, à la fin de la série, on a envie de retrouver ces personnages-là justement. Ouais. Et voilà, sans spoiler ce qui se.
Alors moi, je suis très en retard parce que j'ai été très accaparé, mais j'ai beaucoup aimé Mare of Easttown. Voilà. Mais je suis très en retard. Donc.
C'est une série qu'on a beaucoup couvert, dont on a beaucoup parlé également, avec également là aussi une très grande interprétation. Donc, eh ben super. Merci à vous tous. Merci à vous d'avoir accepté votre invitation. Partagez avec nous les secrets de la création d'Ousekin, que nous retrouverons très prochainement sur Disney Plus cette année, une original de Disney qui est vraiment incroyable. Nous souhaitons beaucoup de succès à la série en France, à l'international. Avec Disney Plus, j'imagine que ça ira à l'international. N'oubliez pas de rajouter Ousekin dans vos agendas Beta Série pour être notifié dès sa sortie. Et à très bientôt pour une nouvelle émission original sur Beta Série La Radio, en direct de Lille et du Festival Cérémania 2022. Merci encore.
Merci.
Originals, Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
Beta Série, partenaire média de Cérémania 2022.